Bonjour, ici David et bienvenue à la saison 4 de Quelle Histoire. J'espère que t'as la pêche. Quelle Histoire est de retour pour cette nouvelle saison qui, je vous garantis, sera magnifique avec des invités de qualité, aussi meilleurs les uns que les autres. Comme d'hab, dans chaque épisode, je déroule le tapis rouge pour un ou une invitée qui se démarque dans notre société. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Abonne-toi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Like parce que c'est un bon petit moment à passer ensemble. Et partage parce que ça ne mange pas de pain. J'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me pose avec un bonhomme qui a vécu une tragédie, qui a bouleversé sa vie de manière profonde et durable. Depuis, il trouve du réconfort auprès de sa famille et ses proches. Il est positif, compétitif et voit la vie comme pousser la fonte, un super set à la fois. Je vous laisse découvrir qui est Héraclès Claude. Comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien.
Oui.
On me tient.
Et l'été s'est bien passé?
Toujours.
Ouais.
On était un peu occupé avec les entraînements que j'ai dû animer ici pour le basket et le football aussi.
D'accord.
Donc, d'accord. C'est ça. Il y en a été un peu...
Mouvementé.
Mouvementé.
Ah, c'est bien. Alors, Héraclès, parle-nous un peu de ta naissance, de l'enfance. Et de ton adolescence?
So, d'enfant, plutôt, je sais pas, mon enfant était bien aussi, j'ai bien encadré, j'ai eu beaucoup de grâce à mes parents, ils m'ont fait connaître la culture haïtienne ici, que ce soit par la nourriture.
Est-ce que tu es né ici ou?
Je suis né ici à Montréal.
Tu es né à Montréal?
Je suis né à Montréal.
D'accord.
Donc, c'est ça, donc malgré que je suis né
au Québec,
j'ai quand même pu savoir et connaître ma culture ici, comme si je suis en Haïti.
D'accord.
Donc,
t'es déjà allé en Haïti?
Malheureusement, j'ai jamais été.
T'es jamais allé, d'accord. Et puis, donc, t'as des frères et sœurs?
Oh oui.
D'accord. Oui. T'en as combien?
Plusieurs familles constituées, déjà. J'ai 5 sœurs, j'ai 3 frères.
D'accord. Et t'es le combien?
4e.
Quatrième?
Ouais.
D'accord. Donc, vous êtes à 9?
Oui.
D'accord. Grande famille?
Quand même.
Alors, donc, t'es né à Montréal.
Exact.
Comment tu t'es retrouvé ici, dans l'Outaouais?
J'ai suivi les parents.
D'accord.
Donc, okay. J'ai grandi à Gatineau. Ottawa, Gatineau. Donc, je suis né à Montréal seulement. Donc, évidemment, de très, très, très jeune âge, mes parents décidaient de déménager de Montréal à Ottawa. Donc, évidemment, c'était pas ma décision, j'étais sans conscience, j'ai juste suivi les parents. Et vers l'âge de 6 ans, mes parents déménagent de Ottawa à Gatineau.
Et ton adolescence, comment s'est passé? On sait que l'adolescence, c'est un moment un peu, très important dans, la vie, dans la vie de quelqu'un.
Exactement.
Donc, que s'est-il passé dans ton adolescence? L'école, t'allais bien à l'école, ça se passait bien?
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, bon et mauvais, durant l'adolescence, qui font en sorte que c'est ma personne d'aujourd'hui. J'ai beaucoup écrit dans le sport.
OK.
Que ce soit dans le basket. Et évidemment, l'athlétisme, c'est là que j'ai eu mon plus grand succès athlétique.
Tu t'as dit que tu étais bon en athlétisme. Est-ce que tu as continué en athlétisme? Qu'est-ce qui s'est passé?
Évidemment, durant cet événement-là, je joue au basket. Donc, j'ai continué à jouer au basket. Puis c'était une façon pour moi de pas y penser. Ici, c'était vraiment le sport parce que c'est une façon de me libérer ici. Puis la crise est venue un peu plus tard. Donc, 2 ans plus tard.
D'accord, donc vers 16-17 ans?
Début 16 ans. C'est vraiment le père de mon ami qui a vu ce potentiel-là en moi. et qui a décidé de m'entraîner ici. Au début, j'avais un peu peur, puis j'étais un peu, j'avais souvent le titre du gars qui profite, qui saute haut. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il me recrute à cause de ça, et ainsi de suite. Mais la première année, la clinique, c'est pas pour les faibles. c'était très différent du basket. J'ai fait 3-4 pratiques, je suis pas retourné. Mais je suis retourné l'année suivante.
D'accord.
Je suis resté l'année suivante. En plus, je m'en fous de l'école. Mon ami m'a encouragé, qui est son fils, à réessayer, et ainsi de suite. Puis je l'ai fait. C'était difficile, mais j'ai vu que j'étais capable de mettre un de mes atouts en œuvre qui était ma vitesse.
D'accord.
Puis depuis ce temps-là, écoute, sky's the limit.
D'accord. Et dis-moi, j'ai appris que tu as fait, tu as fait du bobsleigh.
Du bobsleigh, yes.
Comment tu arrives à ce sport-là?
So, dans le fond, écoute, il y avait un programme que la banque RBC faisait, c'est un camp de recrutement, ça s'appelle le camp de recrutement RBC. C'était pour les athlètes entre 16 et 24 ans. Donc ici, il y avait des épreuves à passer. Puis dépendamment de ton background, tu étais capable d'aller débourser une bourse, d'aller chercher une bourse, d'avoir de 10 000 $. Puis je voulais ce 10 000 $ là, car je voulais faire la tournée nord-américaine, de l'Est à l'Américaine avec la critique, j'avais besoin d'argent. Mais en faisant cette compétition-là, il y avait plusieurs autres fédérations qui étaient là pour faire du recrutement pour leur sport. Et les bosses sont venus m'approcher. Et donc à partir de là, j'ai dit, tu sais quoi, pourquoi pas l'essayer.
Ok. Et tu as fait ça pendant combien de temps?
Une saison.
Une saison?
Ouais.
Et pourquoi t'as arrêté?
C'est cher. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais refaire? Effectivement. J'aimerais ça le réessayer puis le refaire. Mais pour faire le sport, il faut aller dans l'Ouest.
Ok, dans l'Ouest canadien.
Ouais.
D'accord.
Calgary ou Vancouver.
D'accord.
Le sport qui est cher aussi, l'équipement est cher. Est-ce que ça devrait m'arrêter d'essayer quand même de faire le sport? Non. Mais puis j'avais arrêté aussi parce que c'est ma grand-sœur qui me supportait à travers cette journée-là,
financièrement
elle m'aidait énormément. Donc c'est ça ici. Comme je dis, est-ce que c'est ce que je voudrais faire? Effectivement, j'aimerais ça réessayer. Pour le moment, je vais mettre ça sur pause. Mais c'était une super belle expérience.
Dis-moi un peu d'où t'es venu l'amour de la culture physique.
Donc, moi, en fait, j'ai toujours aimé l'activité physique.
D'accord.
Donc, c'est ça ici. J'ai toujours aimé au fait que je suis fort, que je suis vite. Et j'ai un grand frère que lui, il est costaud. Il est très costaud et il ne veut pas en avoir quand même un grand âge de carrage. Donc, en tant que petit frère, tu recevras ton grand frère parce que c'est comme ton modèle ici. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, le fait que j'ai aimé, que j'aime faire le sport, que j'aime bouger, ça a donné que toucher le poids, il y avait quelque chose avec ça. Donc, à un point, quand je commençais à faire la classis, un de mes coachs m'avait banni du bench press.
Pourquoi?
Parce qu'il disait que t'aimes trop le bench. T'aimes trop le bench, tu risques de créer beaucoup de... Tu vas manquer de fluidité pour tout ce qui est le sprint ici. Donc c'est ça ici, mais ça pour dire que j'ai toujours aimé ça.
Ok, et ça fait combien de temps que tu fais de la musculation?
De façon sérieuse, peut-être 4.
4 ans?
Ouais.
D'accord. Et décris-nous une journée typique d'un coach sportif.
Donc moi, les journées, une bonne journée, du coup je me lève le matin, exemple cet été, une journée achalandée, c'était j'avais une clinique de sprint. J'avais 4 groupes, donc de 7h à 11h, un petit break. Puis là, je peux rentrer peut-être 2-3 clients dans ce temps-là. Et puis, suite à ça, j'avais un autre cas d'entraînement que je devais animer, qui était de 3 à 7h.
Okay.
3-7, puis j'avais accès juste après.
Ah, d'accord. Et toi, est-ce que par rapport à la culture physique, est-ce que tu as déjà fait des concours
de bonne question.
De culture physique.
Je l'ai fait un l'année passée, je l'ai gagné.
D'accord.
J'ai gagné ce qu'on appelle le overall.
D'accord.
Ici, la coupe de ma catégorie ici. Mm-hmm. Puis j'en fais un la semaine prochaine.
D'accord.
Donc, vu que j'ai gagné sur de l'année passée, ça m'a qualifié pour les nationales qui auront lieu le 7 octobre à Toronto.
D'accord.
Donc, j'y participe. Qui va être la semaine prochaine.
OK, donc tu es en pleine préparation.
En pleine préparation, là.
D'accord.
Il me reste littéralement moins de 10 jours.
Quels sont les préparatifs pour un concours?
Donc, évidemment, j'ai un coach.
De culture physique, ouais.
Un coach a besoin d'un coach.
D'accord. Non. Donc, tu te fais coacher par elle.
Je me fais coacher par elle, effectivement. Donc, ce qui arrive, c'est que moi, mon coach, il prépare, exemple, j'ai commencé à 15 semaines. Donc, pendant 15 semaines, j'avais une diète à respecter, j'avais un plan d'entraînement que j'ai dû respecter pendant ces 15 semaines-là. Mmh. Évidemment, tu as respecté le plan à la lettre, à la lettre ici, pour avoir les résultats. Donc, je faisais ce qu'on appelle des check-ins. Donc, je parlais avec mon coach chaque semaine, j'envoyais les mises à jour ici.
Tu t'entraînes combien de fois par jour ou par semaine, je veux dire?
6.
6 fois par semaine et à combien d'heures?
Une heure et demie.
Une heure et demie, 6 fois par semaine.
Ouais. Pourquoi je dis une heure et demie, c'est que je dois rentrer mon cardio.
D'accord.
Et je dois faire mon entraînement. Donc, mon cardio, quelque chose qui est non négociable.
D'accord.
Donc, 6 fois par semaine, je dois m'entraîner. Mm-hmm. Excusez-moi. Le cardio aussi, on donne le conditionnement. Tu vas être peut-être déjà vu sur les escaliers, le gym ici. Puis, je suis là, je mets ma musique. Puis, après ça, tu vois, je suis en train de transpirer. Donc, on veut brûler la masse grasse le plus possible sans trop perdre la masse musculaire. Donc, c'est d'où vient mon entraînement après. Mais j'essaie de séparer les deux.
D'accord.
J'essaie le plus possible. Je préfère ça parce que le cardio, c'est quelque chose qui, des fois, ça tombe pas en train de faire. Donc, je fais le matin si j'ai mon plein d'énergie. Et après ça, je retrouve un petit 2 heures dans ma journée. Pourquoi je dis 2 heures même en 1h15, je peux rentrer à mon entraînement. C'est seulement l'entraînement.
D'accord.
Ça arrive que des fois, je dois condenser les deux. Ouais. J'aime moins ça, pour être honnête. Mais c'est ça. Je pourrais dire deux fois par jour pour l'entraînement. Parce que je coupe mon cardio comme un entraînement ici.
OK. Et quels sont les mythes sur la musculation que tu détestes? Il y a des mythes, les gens qui font la musculation, ils sont ceci, ils sont comme ça, ils se droguent, ils prennent des machins, ils se piquent. Je sais pas.
Créatine, c'est la drogue. Je n'ai pas. c'est un supplément qui est naturel, qui se trouve dans la viande, littéralement. Donc, créatine, c'est pas du jus, comme l'expression dit. Il y a des femmes qui disent que la musculation va les rendre comme un homme.
C'est pas vrai.
Donc, ça va te raffermer, mais tu seras pas un homme.
Non, ouais, tu seras jamais un homme.
Ou tu n'auras pas une carrure trop, carrée. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui t'entraînent pas pour être monsieur Olympia ou madame Olympia.
Ouais.
Tu t'entraînes pas pour être un culturiste ou une athlète de powerlifting. Excuse-moi, de CrossFit. Donc, tu connais 6 fois par semaine, tu n'auras pas cette carrière-là quand tu t'entraînes pas pour ça. Donc, ça me dit un ici. Les carbs, c'est ton ennemi. Tu peux manger du riz, c'est pareil. J'en mange du riz et j'arrive quand même à
perdre.
À perdre.
Okay.
Donc, ce ne sont pas tes ennemis. Tu as quand même besoin de glucides ici pour fonctionner. Donc ça, c'est mes top 3 là. C'est ça là.
Et en tant que coach sportif, quel conseil essentiel peux-tu donner à une personne qui veut atteindre son plein potentiel, je veux dire, au niveau physique?
Ta récupération est autant importante que ta performance.
La récupération est autant
importante que ta performance.
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, autrement dit, c'est beau être au gym, mm-hmm. une 75 minutes. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu fais après le gym est plus important de ce que tu as fait dans le gym. Mm-hmm. Dans le gym, tu fais seulement des bris musculaires. Mm-hmm. On fait seulement des dommages mm-hmm. au gym. Mm-hmm. En douleur, tu n'es pas capable de marcher, on fait que des dommages. Mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bois assez d'eau? Tout ça fait partie de la récupération. C'est mm-hmm. encore important. Donc, pour moi, c'est des meilleurs amis. Mm-hmm. Tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. Mm-hmm. Comment tu veux performer si tu ne récupères pas bien?
C'est un tout, quoi.
Ça va tout. Mm-hmm. Il faut dormir aussi. Hein? Le sommeil joue un grand rôle dans la perte de poids et dans la masse musculaire. Donc, c'est super important de prendre ça en considération ici.
D'accord.
Donc, ça ne sert à rien de passer 2 heures au gym.
Si tu ne dors pas assez.
Si tu ne maintiens pas tout ce côté-là ici. Là.
D'accord.
Okay. Et tu n'as pas besoin de passer 2 heures au gym en passant. Tu n'as pas besoin.
Maintenant, on va passer à la question.
Yes.
Où étais-tu quand tu as appris justement le décès tragique de ta mère?
J'étais à la maison.
Okay.
C'était à la maison.
C'était à la maison. Elle était à la maison
elle aussi? Elle était à la maison aussi.
Ok. Donc comment ça s'est passé?
Donc littéralement, je me suis levé un matin. Ma soeur elle était vraiment petite dans le temps, maintenant elle c'est une femme. J'ai demandé à la mère si elle pouvait aller faire un déjeuner des crêpes.
Et je vais juste revenir un petit peu en arrière. Mm-hmm. Ça arrivait il y a combien de temps?
J'avais 13 ans. J'avais 14 ans.
Et là, t'as quel âge?
J'avais 30.
30. Ah oui, ça fait 15 ans. D'accord.
Donc, donc c'est ça ici. Tu dis à maman, est-ce que je peux aller faire ci? Il n'y a pas de réponse. Elle allait faire elle-même. Donc c'est ça, puis elle a fait 2-3 fois, là c'est comme si ma mère n'était pas, puis c'était pas normal. Donc vraiment, mon père a appelé à m'amener.
Ton père était où?
Mon père était au travail.
D'accord.
C'est une routine qu'il faisait tout le temps, mais il a appelé à la maison. Mm-hmm. C'est pendant le temps, c'était à la maison, il n'y a pas de donc elle a appelé pour avoir des nouvelles de la mère, en tout cas. Il n'y a pas de quel homme faire, tu sais, essaie de... durant ta pause, aller parler à ta femme, whatever. C'est comme ça qu'on fait. Il a appelé, il a dit, j'ai dit, elle dort. Elle dit, ok, pas de problème, ok, laisse-la dormir. Mais c'est quand il a appelé une deuxième fois, mais il était rendu plus tard dans la journée, sachant que ma mère, c'est pas quelqu'un qui se lève tard. Oui, comme ok, il y a quelque chose de bizarre là, il va réveiller ta mère. Puis là, c'est là que. Au téléphone, j'ai dit qu'elle ne se réveille pas.
C'est à toi qu'il parlait.
Oui.
Ton père, c'est toi qui est allé vérifier.
On t'a vérifié, c'est ça. Puis il y avait mon grand frère qui était là dans le temps. On t'a arrivé à mon grand frère, puis mon grand frère est allé voir. Parce que lui aussi, on ne croyait pas ses yeux. Il était comme, de quoi tu parles? Il est allé voir, puis il secouait
la mère,
puis il n'y avait aucune réponse. C'est là qu'on a appelé les ambulances. Et tout, puis mon père est venu sur le champ là. Il a quitté le travail, puis il est venu.
Et je peux demander, elle est décédée de quoi?
Mort naturelle.
Mort naturelle?
Ouais. Mort naturelle. Donc c'est ça, donc ce côté-là, ça fait. Mais ça a changé tout. Ça a changé la famille. Pas changé, mais c'est. Ça a troublé la famille. Ça nous a ramené beaucoup plus ensemble, par contre.
Mais c'est déjà dur quand on perd quelqu'un.
Oui, exactement.
Mais c'est quand on perd quelqu'un qui tombe malade, qui est à l'hôpital ou qui est malade. C'est comme si on se prépare, on est déjà
dans un état d'esprit.
On n'espère pas que la personne décède, mais on se dit.
On se dit ça,
mais quand ça arrive, c'est comme s'il y avait comme une petite préparation sans même le vouloir. Mm-hmm. Mais là, mourir comme ça du jour au lendemain.
Du jour au lendemain.
Hier, tu étais avec ta mère le lendemain. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, pour un jeune de 15 ans?
Mais comme exemple, un moment comme ça, pour moi, ça me dit demain n'est jamais promis. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose que je me dis souvent, demain n'est jamais promis. Toi-même, tu es un père, tu peux aller travailler et revenir, et ne plus revenir, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver.
Mm-hmm.
Et c'est donc, ça m'a prouvé comment la vie est fragile.
Mm-hmm.
Je l'ai vu de très jeune âge, comme, okay. Il faut profiter. Encore là, tu profites de façon sagement. Tu ne pas juste aller en débauche ici. Mais c'est ça ici, de vraiment prendre le temps de d'aimer la famille. D'aimer ceux que tu aimes, de leur dire que tu les aimes. Et si tu ne sais pas, qu'est-ce qui arrive demain, on fait des plans pour demain, oui, il n'y a pas aucun mal, mais ce n'est pas promis.
Et toi, comment ça t'a affecté, toi?
Ça m'a vraiment...
Les jours d'après, les mois d'après, les
années d'après. Ça m'a endurci, un peu, veux pas. Je me suis plongé vraiment dans le sport, dans quelque chose qui était thérapeutique pour moi, personnellement, ici. Je n'ai pas vraiment pleuré jusqu'à temps que je vois vraiment que... Pas que j'y croyais pas. Jusqu'à temps que je vois le cercueil tomber. Là, je suis comme, OK, c'est vrai. Puis, mon grand frère et ma grande soeur m'ont dit, je ne veux pas que cette situation ici fait en sorte que tu tournes mal. Donc, je veux pas que les gens trouvent cette situation comme excuse pour dire, oh, c'est un peu normal qu'il a viré mal, elle a viré mal parce que sa mère est décédée. Il voulait vraiment pas. Donc, il s'est dit, je veux que tu excelles dans ton sport, je veux que tu excelles dans ce parce que je veux vraiment pas que les gens te pointent du doigt et aient pitié de toi à cause que ta mère est décédée. Donc, j'ai essayé d'appliquer ça vraiment de façon plus au sérieux ici. Oui, il était vraiment plus sur mon derrière. Je ne vais pas te le mentir ici, pour qu'il puisse me garder le plus droit possible ici. Donc, c'est ça. Et en même temps, ma mère m'avait toujours dit, quand je vais décéder, c'est comme n'importe quelle personne, je ne veux pas que tu pleures parce que je ne suis pas là. Je veux que tu sois un homme autonome. Oui, je ne dis pas de ne pas pleurer, mais je veux pas que tu fasses, je veux pas que tu fasses la crevette. Parce qu'il faut que tu vives. Je veux que tu vives. Donc, le fait qu'elle dit ça, comme il y a bien vraiment avant, elle ne pensait pas qu'elle allait mourir ici, mais elle le disait que. Parce qu'elle faisait aussi l'hypertension, et ainsi de suite. Donc, on a toujours dit je veux que tu sois capable de te débrouiller dans la vie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Littéralement.
Mais toi, tu avais 15 ans, ok? Ouais. Le plus petit ou la plus petite avait quel âge?
9 ans.
9 ans. Ouais. Et lui, comment il a vécu ça?
Elle a vécu.
De ta vision, ta perspective à toi, comment elle, tu penses, elle a vécu ça? En plus, c'est une fille, en plus, c'est sa mère.
Mais tu vois, ça doit être difficile parce que t'es plus jeune, tu n'es pas ta mère jeune. Puis, selon moi, que tu perds ta mère jeune ou vieux, les deux extrêmes sont mauvais. Parce qu'il y en a un, tu n'as pas eu le temps de vraiment connaître ta maman. Puis il y en a un, tu as trop de souvenirs. Tu vois, là, tu commences à réfléchir à tous les souvenirs, les affaires de mère qui peuvent te faire plus mal. Puis l'autre côté, le fait que tu as aimé ça, la connaître plus, puis tu peux seulement entendre vraiment par des bouches de quelqu'un d'autre ou bien des plus vieux. Ici, parce qu'évidemment, j'ai 6 ans plus qu'elle. J'ai 6 ans plus de vécu avec la mère, ce qui fait en sorte que elle peut-être l'aurait peut-être aimé avoir les mêmes souvenirs aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Sachant que c'est elle qui la ressemble le plus physiquement.
D'accord.
Elle ressemble comme deux gouttes d'eau ici.
D'accord.
Donc, ça pouvait, ça aurait pu l'affecter. Peut-être maintenant aussi. Mais durant cela, je n'aurais pas dit qu'elle était trop jeune pour comprendre. Il ne faut pas sous-estimer les enfants. Pas penser qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent très bien. Pour des fois, il faut juste prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe. Mais ils comprennent très bien ce qui se passe. Je pense qu'elle a très bien compris ce qui se passait ici. Et qu'elle voyait que ce n'est pas pour revenir. Mais donc, c'est ça. Mais elle a été quand même très capable d'assimiler l'événement, de faire son deuil et d'avancer.
Et est-ce que la mort de ta mère a affecté un membre de la famille jusqu'à aujourd'hui?
Ça a affecté tout le monde.
Non, mais ça a affecté, oui, je comprends que ça a affecté, mais ça a fait qu'une personne a pu dérailler.
Non. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a vraiment, les enfants se sont vraiment mis ensemble. Donc là, on est toujours plus proche. Donc, on est tous dans la même ville en ce moment, juste pour te dire. Là.
D'accord.
On est tous dans la même ville, on n'est jamais très loin, on essaie de se garder les nouvelles. Mm-hmm. Le plus possible, évidemment, là, on est tous des adultes, ça arrive que...
Tout le monde est occupé.
Exactement. Mais c'est ça, là. Mais ouais, je trouve que ça vraiment, les frères et sœurs nous amènent en harmonie, parce que c'est quelque chose que ma mère n'aimait pas, c'est les chicanes.
Ouais, entre frères, ouais.
Entre frères. Juste pour te dire, tu chicanes avec ton frère pour pouvoir te corriger. Même si t'étais, même t'avais raison, elle va te corriger. Tu vois, parce qu'elle voulait pas que vous chicanez ici, puis que ça traîne jusqu'à la vie adulte, puis arrive à la vie adulte, mais vous n'êtes pas capable de vous soutenir l'un l'autre à cause d'une chicane qui s'est passée durant. Il y a longtemps, là, ouais. Tu vois. Donc, elle voulait vraiment être vraiment focus sur. C'est ton frère, c'est ta soeur, même si vous chicanez, vous devez vous réconcilier.
Ouais.
Donc, c'est ça ici. Parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe dans la rue, c'est ton frère et ta soeur qui est là pour te défendre. Tu vois, donc, on a vraiment suivi ce conseil-là, du plus qu'on peut. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu de chicane après.
Mais la base est là.
Mais la base est là. Donc, c'est ça.
Okay.
Donc, exemple, moi, ce que je peux faire ici, c'est une façon de honorer ma mère, c'est d'exiler. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Oui, elle n'est pas là, mais ma façon pour moi, c'est d'exiler. Que ce soit dans le bodybuilding, et que ce soit aussi, elle veut que j'excelle, que j'ai une vie, que je vive bien. Donc, c'est ça que je me débrouille. Vraiment, c'était ça, parce que c'est une femme très débrouillable. Donc, elle veut que ses enfants soient débrouillables aussi. Qu'elle ne veut pas que ses enfants soient dépendants. Elle ne dit pas de ne pas chercher de l'aide, mais elle ne veut pas que tu sois dépendant de quelqu'un.
Ok, bon, on va décompresser un petit peu.
Yes.
Alors, je vais te demander, quel est ton film préféré de tous les temps?
Moi, j'ai...
Un film. Ah, ici, il faut en choisir un. J'ai deux, mais j'en ai...
C'est dur. Mais celui qui va venir en tête, c'est All About the Benjamins.
Ah ouais? Oui, avec Ice Cube. Ouais.
Avec Ice Cube et Mike Epps.
Ah, Mike Epps, ouais. Il faudrait que je regarde ça encore. Ça, je l'ai vu à l'époque, mais je...
Ça, là, c'est mon film, ça.
All About the Benjamins.
J'ai écouté le film plusieurs fois, comme c'était la première fois que je l'écoutais. Comme c'était la première fois que je l'écoutais. Et en fait, j'en ai deux, mais t'as demandé le top des tops, c'est celle-là. C'est que j'ai toujours voulu être un acteur.
Ah ouais, d'accord.
Yeah. Ça, c'est parenthèse, là. J'ai toujours voulu être un acteur, mais vraiment au niveau Hollywood, mais aussi acteur noir pour des films noirs. Être dans BET.
Être dans BET.
C'est quelque chose que je le sais quand j'étais jeune, puis vraiment, tu essaies de trouver un caractère qui te fixe et tout ça. Puis j'aimais bien le concept de la dynamique de All About the Benjamins. Exactement. Ça fait le même truc que tu trouves dans Bad Boys 2, qui est mon deuxième film. Le deuxième.
Ah ouais, le deuxième. Ah oui, c'est vrai que le deuxième, il est super.
Il y a le 1, le 2 et le 3.
Oui, c'est le 2. Le 3, il est nul. À mon avis, c'est un peu tiré par les cheveux. Le 2, il est excellent. Le premier, c'était une première. C'était wow. Le 2, ils ont monté une poche.
C'est le deuxième. Donc, celle-là, c'est le même principe ici. Mais c'est ça, ça reste Black Excellence. Moi, en fait, je voyais. Le nom que je comprends, c'était. Le Black Excellence que j'aime. Mais donc, c'est ça. Mais mon film, c'est...
All About the Benjamins.
All About the Benjamins. All
right. Et puis, quelle est ta chanson préférée de tous les temps?
Oh my gosh.
Si tu avais une chanson, quand tu écoutes ça, tu dis, waouh, ça y est, c'est là.
Plein.
Une.
J'en ai plein. Une. En tout cas, il y en a un que j'écoute, que je suis pas tenu d'écouter. Puis ça s'appelle Major de Young Dolph. Je suis pas tanné.
Major.
Comme Major.
Ouais, Major de Young Dolph.
Young Dolph.
Ok, et pourquoi?
Dans le fond, il y a le côté militaire ici, mais pour X raison, il y a l'artiste Young Dolph qui m'a attiré. C'est son côté hustler ici, Ils vont dire tous les rappeurs vont dire il y a ce côté-là, mais ce côté entrepreneur. Mm-hmm. Et c'est ça ici. Donc ça, j'ai un côté, il y a quelque chose qui Young Dolph a, que les autres artistes n'ont pas, mm-hmm. ce qui m'a attiré. Puis cette chanson-là, littéralement, je suis tombé par hasard. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, écoute, il y a dans son clip, il y a ma voiture de rêve.
C'est une quoi?
Dodge Challenger.
Ah, ok, d'accord.
Une Dodge Challenger, mm-hmm. la couleur que je veux, vers kaki. Mm-hmm. Et ça, donc, ouais. C'est vraiment l'artiste en tel, je l'aime bien, puis ça sur cela m'a juste
accroché.
Et quand je me mets dans les oreilles, là, c'est
motivation.
Ça fait mieux.
Mobbing in the Bentley smoking moon. Hey. Rocks. Hey. Pocket full of motherfucking blue. Guap. Half an ounce in my Gucci tube. Socks. For the summertime, got a new what? Drop. Trapper slash rapper slash bad bitch snatching.
Come here.
Baby mama mad. She said you live like a bachelor.
So what?
Sold 100 pounds and gave 10% to the pastor.
Church.
Keep going up the ladder.
Hey.
They mad, make them madder.
Hey.
Maintenant, on va passer à l'entretien frites ou poutine. Ok.
Ok.
Entretien frites ou poutine. Je te pose une question et puis bah tu me réponds spontanément sans trop réfléchir.
Ça va pas.
T'es plutôt frites ou plutôt poutine?
Poutine.
Poutine. D'accord. T'es un vrai Québécois.
D'accord.
t'es plutôt banane pesée ou plutôt banane plantain sucrée à l'africaine?
Écoute. Écoute, pour être honnête, je sais ce qu'est la réponse. Okay. J'aime beaucoup les bananes sucrées.
Tu préfères les bananes sucrées, mais les bananes pesées, c'est pour la culture.
Ouais.
Je comprends. Yeah. T'es plutôt The Rock ou plutôt Vin Diesel?
The Rock.
Ok. Avec les femmes, t'es plutôt fossile ou plutôt faux ongles?
Fossile.
Fossile, d'accord. Et t'es plutôt zouk ou plutôt compas?
Compas. facile ça.
T'es plutôt rap ou plutôt trap?
Rap.
Ouais. Ok, t'es plutôt Tupac ou Biggie?
Pac.
C'est mon gars. T'es plutôt Batman ou plutôt Black Panther?
Batman,
d'accord. T'es plutôt Star Wars ou plutôt Star Academy?
Je sais pas vraiment, j'ai aucun des deux.
Aucun des deux?
Exactement.
Alors, pour la dernière, t'es plutôt boisson alcoolisée ou plutôt pétard?
Pétard! Je ne bois pas vraiment.
Ouais?
Non, ouais, ça c'est facile. Je ne suis pas vraiment un buveur d'alcool.
D'accord.
Mais pétard, for sure.
D'accord. Choisis un chiffre entre 1 et 10.
8.
8? Où te vois-tu dans 8 ans?
Dans 8 ans?
Mm-hmm.
Déjà, dans 8 ans, je me vois déjà pas ici.
Mm-hmm.
Déjà pas ici. Je veux mon propre gym, évidemment, marier, avoir des enfants. Donc, c'est ça ici. Et que j'ai littéralement ma carrière de pas de bodybuilding mais d'entraîneur mm-hmm. vraiment à un niveau j'ai mon propre gym j'ai ma propre mm-hmm. plateforme que ce soit sur le gym et sur internet ici mm-hmm. je suis capable d'aider le maximum de personnes ici mm-hmm. Donc c'est ça et que oui donc et que je vais de façon aisément sans vraiment pour courir par l'argent
mm-hmm. Que ton hustle soit déjà carré, quoi.
Hustle, yeah. Mm-hmm. Yeah. Je ne dis pas que je vais arrêter le hustle, mm-hmm. mais que ce n'est pas le même grind que maintenant. Et maintenant, mm-hmm. j'ai l'énergie. Là.
D'accord.
Mais dans 8 ans, mm-hmm. je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, mm-hmm. Vraiment, dans 8 ans, c'est que je veux vraiment créer une belle stabilité.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça.
Mm-hmm. Héraclès, merci.
Merci à toi.
C'est super, frère. Ça y est, c'est la fin.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Héraclès que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux dans la description. Pas écouté jusqu'à la fin, pas kiffé. Maintenant, laisse-toi aller. Abonne-toi, like et partage. Lâche-moi 5 étoiles si tu es sur Apple Music ou un commentaire si tu utilises des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur toi. Suis-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésite pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À toi de le découvrir. Yes! Dans le prochain épisode. Ciao, ciao!